comment la première grande phase de modernisation de la ville, de modernité urbaine qui construit la ville du XVIe au XIXe siècle, peut avoir un rapport avec les études d'animaux et plus particulièrement la présence des chevaux. Et comment cela va être une occasion de comprendre la révélation de cette relation entre les hommes et les chevaux, mais dans un milieu qui est particulier. Comme on l'a dit, ce ne sont pas tous les chevaux. Ce sont des chevaux qui sont très domestiqués, qui sont constamment mobilisés pour des tâches multiples et très diverses, donc qui sont très très proches des hommes, qui ne vivent pas du tout dans un climat de société cavalière ou dans un climat d'élevage extensible, et qui participent de niveaux de comportement extrêmement diversifiés. Alors au centre de cette civilisation urbaine, il y a des facteurs sur lesquels je vais être obligé de revenir qui ne vous apprendront rien, mais il faut les mettre un peu en évidence. C'est la densification de la population qui est porteuse de demandes énergétiques. C'est l'artificialisation du milieu citadin qui transforme par ses constructions et par ses manières de vivre le rapport à la nature. Et le problème est de chercher à comprendre des solutions qui ont varié dans le temps et qui, vous voyez, sont constructives de la relation de l'homme à l'espace et de la part de l'animal dans cette relation à l'espace et à l'urbain. Il y a deux facteurs principaux qui doivent retenir votre attention. Le premier, c'est la force du réseau de circulation, de toutes les occasions d'échange et de relations de mobilité qui se créent autour des villes. Le second, c'est évidemment la force économique qui transforme la représentation urbaine et qui en représente aussi les nouvelles conditions de fonctionnement. Du côté des forces de la circulation, il faut rappeler que la ville d'Ancien Régime a déjà été une concentration de mobilité et que cette concentration de mobilité commence à la base avec la fonction administrative et politique, comme l'a très bien montré Bernard Le Petit dans son travail sur les villes de France de l'Ancien Régime à l'époque contemporaine. Donc autour des villes se dessinent des zones qui ont des extensions variées, plus ou moins étendues, et le cavalier et les voitures participent de cet élargissement de cette zone, de ces zones de relation. Donc quand on parle chevaux en ville, il faut d'abord commencer par parler ou par se rappeler que ces chevaux correspondent à des utilisations par différents types de cavalerie, des personnes privées comme des personnes publiques. Et il y a des équipements qui vont dépendre de cette attraction dont, dans l'Ancien Régime par exemple, la cour, le palais, évoqués il y a un instant, sont fondamentaux, ont été absolument fondamentaux. La tenue annuelle, par exemple, des grandes assemblées politiques ou la tenue annuelle à Paris des grandes assemblées du clergé s'accompagne par des mouvements d'une importance temporaire énorme à l'échelle, évidemment, des populations anciennes. Mais c'est un phénomène européen qui a été bien mis en valeur dans le travail d'Olivier Zeller et de Pinol, publié en 2003 sur l'histoire européenne de l'Europe. Donc, replacer la relation de l'homme au cheval dans les villes, c'est la replacer dans cette série d'espaces de relations plus ou moins élargies et où la mobilité des populations est tout à fait corrélée au rôle spécifique des animaux qui sont soit sédentaires, soit passagers. Ce qui est le grand problème de l'évaluation de la population des chevaux dans n'importe quelle ville. On ne sait jamais à combien de chevaux on a affaire, parce qu'on ne sait pas si on a compté les chevaux installés ou les chevaux qui traversaient. Ça peut passer de quelques dizaines de milliers à quelques centaines de milliers par moment quand il y a des concentrations passagères. Donc voilà un aspect de la ville qui fait que la ville accueille, attire, a besoin des chevaux et par sa polyvalence même, et cela se traduira dans des programmes de règlement de l'espace dont nous allons essayer d'attirer, en quelque sorte, de tracer quelques grands traits. La deuxième dimension, c'est le côté économie, c'est-à-dire la rencontre entre un espace de production nationale ou régionale et un espace urbain de consommation qui se joue pour chaque ville. Il y a une intervention économique avec ses effets spécifiques où le cheval a sa part de façon tout à fait importante. On ne peut pas concevoir jusqu'au XIXe siècle la ville comme coupée des zones dont elle dépend et plus particulièrement du pays, du grand pays rural, parce que la rente foncière est à la base de tout le fonctionnement urbain et elle se dépense en ville, comme vous le savez, depuis les analyses des économistes du XVIIIe siècle, Richard Cantillon en tête et quelques autres par la suite, dont Condillac. Je ne résiste pas à vous lire un petit passage de l'essai sur le commerce de Condillac de 1780. Pour faire fleurir le commerce dans toutes les provinces où il se répand, il faut que réciproquement, d'une cité à l'autre, le surabondant se verse sans obstacle et qu'il supplée à ce qui manque dans les lieux où il se répand. C'est une espèce de flux et de reflux où les choses se balancent par un mouvement alternatif et tendant à se mettre au même niveau. Vous avez là une très belle image de l'hydraulique en quelque sorte de l'économie, d'une interprétation quasiment hydraulique de l'économie par des flux qui se mettent à des équilibres et qui se substituent en quelque sorte les uns aux autres par moment. Il n'y a pas de divergence sur ce point entre l'économie libérale et l'économie contrôlée, l'économie mercantiliste, qui est née du côté de Galliani comme du côté de Condillac. La ville est un multiplicateur parce qu'il va y avoir ces échanges constants et ces échanges sont absolument inconcevables sans la présence de cet acteur particulier qu'est le cheval. Parce que le cheval entretient dans les villes ces fonctions que j'ai évoquées au départ et lui confère en quelque sorte, leur confère leur capacité d'écho, leur capacité d'échange. En même temps, comme l'a rappelé Vincent, c'est l'énergie ancienne qui est fournie tant à la construction urbaine qu'au transport. Et je n'aurai pas le temps de développer cet aspect des choses, mais vous pourriez peut-être déjà enregistrer ce fait fondamental, c'est qu'à l'époque moderne, la très grande transformation n'est pas exactement la transformation du cheval, mais c'est la véritable transformation, c'est la voiture. C'est l'apparition de l'attelage et de la civilisation hippomobile. Et c'est cette civilisation hippomobile qui a duré jusqu'au chemin de fer. Les ingénieurs du temps, les écrivains des années 1830-1840 se tapaient la tête sur les murs en disant « il n'y aura plus bientôt de chevaux parce que le chemin de fer va tout remplacer ». Et la réalité, ça a été exactement l'inverse, c'est que l'on a eu de plus en plus besoin du chevaux. La construction même du système des réseaux routiers comme des réseaux ferrés a entraîné la multiplication de l'élevage et le point maximum de la présence des équidés dans toute l'Europe de l'Ouest est atteint à la fin du XIXe siècle, avant la grande première guerre mondiale. Donc cela induit des effets tout à fait particuliers, tout à fait importants, parce que cette demande d'énergie repose sur un être vivant qui ne se manie pas du tout comme de la mécanique automobile, des machines à vapeur. Le cheval est fragile, le cheval exige des conditions de vie tout à fait particulières, un entretien tout à fait particulier, et la ville va être un de ces laboratoires où justement les choses vont changer dans la connaissance des chevaux. Ce n'est pas toujours dans les campagnes que les exigences vont entraîner la transformation des connaissances, cela le sera en partie, mais c'est aussi en ville que la demande en quelque sorte pour les besoins les plus essentiels qui ont été évoqués entraîne le changement de la nature même des chevaux et pose des problèmes à une économie d'élevage qui fonctionne à la nécessité mais qui fonctionne aussi au goût, au plaisir et à la mode. Il y a eu des modes pour certains usages des chevaux et il y en a aussi qui sont dictés par la nécessité. Donc on va retenir en quelque sorte trois questions principales. La première, c'est d'essayer de mesurer la présence de l'animal sur cette période. La deuxième, c'est d'en voir les effets induits et les solutions qu'elles, en quelque sorte, vont les solutions qui vont être exigées. Et la troisième, c'est de mesurer le rapport aux transformations de l'urbanité et de l'espace et l'apparition, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, de ce qui peut être appelé une véritable ville des chevaux, comme il y a maintenant, au XXe et XXIe siècle, une ville de l'automobile qui est à adapter tout autant qu'on a eu à adapter la ville ancienne, héritée du Moyen-Âge, à cette présence de l'hypomobilité. Le cheval devient donc un acteur de ce que j'appellerais une histoire urbaine de la nature. Et c'est-à-dire que par la transformation des exigences, l'animal apparaît non pas comme un simple intermédiaire entre la nature, les hommes et l'espace, mais aussi comme un acteur direct, positif, de la construction de l'identité urbaine et de l'évolution des systèmes de comportement. Le cheval construisait un paysage. Le cheval construisait un paysage urbain caractéristique que les gens de ma génération ont encore dans les oreilles lorsqu'ils entendent sur les pavés de Paris, à quelques rares occasions, le bruit des chevaux qui marchent. Être réveillé à 5 heures du matin par ce qu'on appelait les voitures du laitier, c'est un bruit tout à fait caractéristique, qui a disparu, on ne se rend plus compte de ce que ça pouvait être. Ajouter à ce paysage sonore un paysage olfactif, qui est détesté par certains, y compris les écologistes de la municipalité de Paris, qui ne sont pas d'accord pour multiplier les chevaux, alors que certains autres des écologistes voulaient les multiplier dans des cas d'activité. D'autres, comme par exemple, dit-on, notre maire n'aime pas l'odeur du crottin. C'est quand même extraordinaire. C'est une odeur tout à fait agréable quand on en a pris l'habitude. Mais bon, c'était peut-être totalement anecdotique. Le paysage visuel, on ose à peine l'évoquer parce que cette présence quotidienne de ces bêtes que aujourd'hui les enfants admirent mais qu'autrefois ils considéraient comme des objets tout à fait normaux, ils étaient relativement habitués, mais ce qui intéressait les enfants d'autrefois, c'était les différents aspects de ces bêtes. Les gros chevaux de trait qui pouvaient marquer, les chevaux des militaires, les chevaux des fiacres, c'était toute cette population diverse qui construisait ce spectacle dans lequel il y avait un aspect que je n'évoquerai pas faute de temps, l'aspect des courses ou l'aspect des loisirs qui faisait partie de cette organisation des comportements. Donc voilà sur quoi je pars pour essayer de décrire comment la période moderne et l'âge du XIXe siècle avant le XXe siècle ont été absolument essentiels pour analyser cette relation. La présence, il faut, pour comprendre la présence, il faut partir du point de vue fonctionnel, je crois. C'est plus simple et c'est plus commode. Cela permet de saisir la hiérarchie des usages, du travail à l'art équestre et des besoins aux effets, c'est-à-dire l'influence sur les bâtiments, sur les rues, la spécialisation et la représentation. Il faut prendre une ou deux précautions préalables. D'abord, ne pas croire qu'il y a de coupure véritablement nette entre l'espace rural et l'espace urbain avant l'extrême fin peut-être du XIXe siècle et encore. Paris connaissait lui-même, la capitale connaissait elle-même des zones de transition dans lesquelles il y avait une vie de la nature tout à fait extraordinaire, qui a fait l'objet d'ailleurs d'études d'anthropologie zootechnique sur la zone ou des choses de ce genre tout à fait intéressantes. Donc pas de rupture totale avec la campagne, et plus on remonte dans le temps, moins la rupture est nette, comme on a pu le montrer dans un certain nombre de cas, par exemple à Strasbourg ou dans des villes de la périphérie des grandes zones industrielles britanniques. La ville donc est restée très longtemps un centre d'exploitation foncière. C'est à partir de la ville que s'organisait l'exploitation de territoires entiers, et à Paris, tout un système économique reposait sur ces échanges quotidiens ou sur ces échanges hebdomadaires ou sur des échanges à plus long terme entre l'ensemble de la région parisienne et quelques grands propriétaires fonciers, parmi lesquels les héros de Jean-Marc Morisseau, qui sont les fermiers laboureurs de l'Île-de-France, qui ont construit une véritable société rurale en rapport avec les besoins de la capitale. Donc il y a des échanges quotidiens, production d'un certain nombre de consommations journalières qui sont portées à Paris et retour d'autres effets sur le marché rural. Au centre de ces échanges quotidiens, il y a les chevaux eux-mêmes. Les chevaux entrent et sortent, et certains restent et d'autres repartent. Il faudra réévoquer cela brièvement. La deuxième dimension de cette relation, c'est le transport lui-même. Les villes, et la capitale en particulier, la ville est un nœud de communication. Et elle entretient, dans la période moderne, progressivement, la mise en place par le système des postes, du roulage, des entreprises de transport et des entreprises de relais, hippologiques, dont l'exemple le plus connu est évidemment le système des postes contrôlé par la ferme des postes, elle entreprend de multiples relations et cela aboutit à des concentrations énormes de chevaux. La grande poste de Paris, au milieu du XVIIIe siècle, c'est une cavalerie de 300 chevaux. À l'heure actuelle, le quartier de la garde républicaine à Sully-Morland, c'est 450 chevaux. Et c'est tout ce qui reste de tous les régiments de cavalerie qui ont fonctionné en France. Alors, au centre de ces relais, vous avez évidemment les besoins suscités par la demande multiple de l'entretien et du soin des animaux, qui est d'abord une demande d'espace. Il faut, et on va y revenir, des lieux pour les accueillir, comme on accueille les hommes dans les auberges, on a des nécessités qui dépendent directement de la présence des animaux. Et la diversité des véhicules qui s'accroît pendant toute la période va entretenir aussi cette demande d'espace et cette production, en quelque sorte, d'équipements, de services d'entretien, dont il ne faut pas séparer dans cette analyse ce qui concerne la route de ce qui concerne le halage. C'est dans toute l'Europe moderne un autre chapitre dans lequel les chevaux ont un rôle absolument déterminant, c'est le tirage des vaisseaux, le tirage des bateaux sur les plus grandes rivières aménagées. Et à Paris, cela pose des problèmes particuliers, extrêmement, évidemment, compliqués à résoudre sur une rivière qui est à l'époque moins régulée et plus difficile à contrôler qu'aujourd'hui. Troisième aspect qui intervient dans cette diversification autour desquelles j'essaye de rassembler les fonctions de l'animal, c'est le rôle de distinction, c'est le rôle de la représentation politique et militaire. Le cheval tient sa place d'abord dans le spectacle politique. Il est l'acteur sur lequel les gens, même les petites gens, ont un point de vue de la qualité du spectacle politique. Toutes les entrées royales qui se déroulent dans toutes les grandes capitales de l'Europe et à Paris, avec une permanence extrêmement importante du XVIe jusqu'à la chute de la monarchie, ce sont des cortèges de chevaux. Ce sont des cortèges de dizaines et dizaines de bêtes et la plupart des gens commentent et savent, et même à l'époque, les gens de la bourgeoisie avaient le droit de participer à ces entrées et à ces cortèges. Ce qui fait que la ville concentre les institutions d'apprentissage du savoir-voir équestre, du savoir-faire et du savoir-voir. Les académies équestres, comme nous disons, et maintenant nous les appelons plutôt des manèges, étaient des institutions modèles où l'on apprenait, quand on était de la noblesse, les comportements qui étaient nécessaires pour se retrouver dans cette société où les chevaux étaient des indices de distinction, mais aussi des instruments d'utilité, et on ne séparait pas l'un et l'autre. Après la Révolution, bien sûr, les manèges sont devenus autre chose, mais ils sont restés le lieu de la transmission des règles de l'art équestre, et ils sont restés des lieux de sociabilité où les fils des notables et des élites dirigeantes se retrouvaient souvent en famille, où l'on pouvait retrouver les mêmes comportements et les mêmes factions d'échanges et de discussions qu'avant la période égalitaire. Dans les années 1870-1900, la construction des grands lycées parisiens s'accompagnait de la construction de manèges. On les a pas réalisés faute d'argent. Mais il est dit à plusieurs reprises dans les règlements des écoles et dans, en particulier, ce qui concerne les concours de recrutement des grandes écoles, qui, comme vous le savez, reste une des caractéristiques françaises, qu'il serait très bon que les futures élites dirigeantes apprennent à monter à cheval avant d'entrer dans les... Nous sommes en pleine Troisième République, nous ne sommes pas sous la monarchie. Nous sommes donc dans un univers où cette fonction, en quelque sorte, d'apprentissage d'un comportement et de mode de vie compte encore beaucoup dans les espaces urbains d'autrefois. Il faut donc pour tout cela des espaces spécifiques, et si l'on ajoute que les villes sont aussi, c'est la dernière dimension sur laquelle je m'attarde, des espaces militaires, il faut des lieux où accueillir tous ces animaux, il faut des marchands spécialisés pour les renouveler, il faut tout un marché qui s'en occupe, et ce n'est pas rien. À la veille de la Révolution française, pour une ville d'à peu près 5000 habitants comme Valence, le rapport annuel des régiments de cavalerie, c'est 50 000 livres par an, ce qui est considérable. La dépense apportée par un régiment de cavalerie, ça s'est maintenu tout l'Ancien Régime, est évidemment quelque chose de tout à fait important. Alors Paris et les grandes capitales concentrent tous ces aspects, mais évidemment cela va se traduire par un nombre très important de chevaux. Je ne vais pas vous donner la statistique de ces bêtes depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, mais je vais quand même vous donner quelques chiffres pour que vous ayez une idée. On ne sait rien de vraiment précis dans une ville comme Paris avant le XVIIIe siècle. On peut dire qu'il y avait au minimum un cheval pour 40 habitants au milieu du XVIIe siècle. Cela repose sur des évaluations qui sont faites pour des recensements en période d'activité militaire accrue. On craignait des sièges. C'est très difficile à interpréter. Qu'est-ce que cela pouvait représenter comme chevaux ? Peut-être 10 000, peut-être 15 000 au milieu du XVIIe siècle. On a quelque chose de beaucoup plus sûr seulement à la fin du XVIIIe siècle, et c'est pareil dans toute l'Europe. Hein. Les statistiques sont difficiles à trouver, difficiles à interpréter. Avec la première évaluation, elle est donnée par Lavoisier dans La richesse territoriale, avec 21 500 chevaux, mais qui laisse de côté les chevaux de passage. Donc il faudrait certainement augmenter considérablement le nombre de chevaux, et à ce moment-là, on serait passé à peu près à un rapport de 1 cheval pour 30 habitants, si vous évaluez la population à quelque chose de l'ordre de 600 ou 700 000 habitants. Vous savez qu'il y a débat. Ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre, hein, au-dessus de 20 000 chevaux, va rester accepté mais discuté par une espèce d'école qui se met en place, qu'on pourrait appeler l'école des statisticiens de l'évaluation du personnel des équidés dans les villes. Il y a tout un milieu de gens qui s'attaquent à ce problème et qui essayent de mesurer toutes les variables possibles. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est lié à la dépense et à la consommation. Le rapport entre l'une et l'autre chose est absolument évident. Et puis, c'est lié aussi à toute cette idée que les cavaleries vont participer de l'accroissement urbain qui prend d'autant plus d'importance dans cette première moitié du XIXe siècle. La deuxième évaluation sur laquelle on est du même ordre, toujours dans l'ordre des 20 000 qu'au temps de Lavoisier, c'est l'évaluation d'un économiste qui s'appelle Benoiton de Châteauneuf en 1820-1830. Il n'arrive lui même pas à 20 000 chevaux, mais il a un avantage sur Lavoisier, c'est qu'il nous donne la composition de ces 20 000 chevaux, c'est-à-dire il les répartit par fonction. Donc c'est très intéressant. Nous avons les transports, les services de la poste, les services de courrier, etc., qui sont de l'ordre de 10%. Nous avons les voitures de location et les chevaux en quelque sorte des grands transporteurs au-delà de la capitale, qui sont de l'ordre de 25%. Les écuries royales, les voitures privées et les entreprises diverses, les plus diverses, rassemble à peu près 40 ou 45%, et il reste une cavalerie industrielle et une cavalerie d'entreprises, des grands magasins, des brasseurs, de toutes les manufactures que vous pouvez imaginer, qui est de l'ordre encore de 10%. Donc, vous voyez, si vous retenez cela, la partie lourde de la population des équidés dépasse largement les 50 ou 60%. Et la partie légère, les chevaux de selle, ou les chevaux attelés à des véhicules légers, compose l'autre, le reste. Benoîton de Châteauneuf et tous ses statisticiens donnent énormément de détails, et l'intérêt, c'est de répartir en quelque sorte les dépenses successives qui sont exigées et qui sont retenues pour cette population d'équidés. Évidemment, c'est proportionnel à la concentration dans les villes, et plus on va descendre vers des petites villes, moins on va trouver de chevaux, moins on va trouver de dépenses. C'est inutile, à part l'intérêt de l'exemple, si vous voulez, on pourrait le faire, de suivre cet itinéraire. Mais ce qui est très important, c'est que le problème de la composition de ces cavaleries est directement lié à la population urbaine, de toutes les manières, c'est-à-dire que le sexe des chevaux, l'âge des chevaux, le turnover des chevaux, tout dépend de cet ensemble de fonctions qui sont mises en place dans les transports urbains. Et la construction des chemins de fer, où nous y reviendrons dans un instant, la transformation urbaine des villes, va accroître tous ces mouvements, va accroître toutes ces exigences, toute cette disponibilité. Alors cela se traduit dans un certain nombre de conséquences sur lesquelles nous allons passer assez vite, mais qui sont fondamentales pour comprendre quel était, en quelque sorte, le paysage urbain de ces cités d'ancien temps. Dans le tableau de Paris qu'évoquait Vincent, il y a à peine 100 occurrences concernant les chevaux. Vous savez que le tableau de Paris a été rédigé entre 1780 et 1785. Ces 100 occurrences se répartissent de la façon suivante. 37% pour les embarras de la circulation et les problèmes de la circulation, la vitesse, les questions de mouvement. 44% portent sur les usages des voitures ou des chevaux en fonction de leur fonction, en fonction de leur utilisation. Qu'est-ce qui reste ? Les relations sociales et les usages festifs, les courses, particulièrement les courses qui mettent à ce moment-là en route les princes du sang et la haute aristocratie qui se sont épris des modes à l'anglaise, et toutes les fêtes symboliques, dont un grand chapitre consacré par Sébastien Mercier au cheval blanc d'Henri IV sur le pont Neuf. Donc, tous les éléments sont là dans un truc comme dans un texte comme le tableau de Paris. Alors, pour résumer et pour gagner dans l'analyse, on va répartir les questions en deux gros chapitres. Le premier chapitre, c'est tout ce qui concerne la nourriture, l'abreuvage des chevaux et ce qui est lié finalement à leurs soins et à leur surveillance. Et le deuxième chapitre, c'est le logement. Ils n'ont pas exactement les mêmes besoins, ils ne renvoient pas aux mêmes nécessités. La nourriture, la masse de fourrage et la masse d'avoine qui est exigée sur un marché quotidien de 20 000, 30 000 et plus tard encore plus de chevaux, à la fin du 19e siècle, on dépasse les 100 000 vraisemblablement, est absolument extraordinaire. C'est à peu près 192 000 tonnes annuelles d'avoine qu'il faut importer dans une ville comme la capitale. Et évidemment, cela va entraîner des conséquences multiples parce que l'avoine, la céréale qui monte le plus prix au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. C'est un indice, vous voyez, sur un marché qui est relativement peu extensible. On ne peut pas multiplier les quantités d'avoine pour nourrir uniquement les chevaux, de même les fourrages. Vous savez que dès le XVIIIe siècle, c'est une question posée par les économistes, que l'on a résumée par la formule de Cantillon, le cheval mangeur d'hommes. Si vous multipliez les chevaux, vous enlevez le blé et vous enlevez la nourriture des humains. Donc c'est un problème tout à fait fondamental dans l'équilibre des ressources géographiques. 172 000 tonnes d'avoine, 41 millions de bottes de foin, on pense que la botte variait entre 10-12 kilos, mais on n'en est jamais sûr. Vous voyez que ce sont des masses énormes de fourrage, des masses énormes d'avoine, qui arrivent essentiellement par le fleuve, avec les chevaux qui les tirent, et qui sont répartis sur le marché au foin et dans les remises des fournisseurs secondaires. D'où alors une spéculation qui s'installe, qui est une spéculation scientifique, c'est comment peut-on diminuer ces masses en substituant de nouveaux aliments, et l'agroalimentaire s'est mis en branle dans tous ces domaines pour essayer de trouver comment on peut nourrir des chevaux autrement qu'avec ces deux éléments de base produits par les agriculteurs dans tous les pays européens, le fourrage et l'avoine. Et à ce moment-là, on a fait appel aux nourritures exotiques, on a fait appel au maïs, on a fait appel au pop-corn, on a fait appel à tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des tas de spécialistes de l'agroalimentaire qui travaillent et dont le but est effectivement de diminuer la dépendance des villes et la dépendance de l'économie de ce poids extraordinaire des céréales spécifiques et des fourrages. On peut ajouter le deuxième élément de cette nourriture, c'est l'eau. Un cheval, ça boit quand ça travaille à peu près 30 litres d'eau par jour. Dans une ville où l'on dispose par personne d'à peu près 5 litres par jour au XVIIIe siècle et 15 avant les grandes adductions d'eau du XIXe, vous voyez ce que ça veut dire que de nourrir ces milliers de chevaux. C'est de l'ordre, selon que vous les abreuvez beaucoup ou pas, ça varie selon les saisons, vous vous en doutez, c'est de l'ordre de 300 à 600 000 litres d'eau par jour. Alors où on va trouver toute cette eau alors qu'il n'y en a pas encore? Bien, on va la trouver en majorité dans la rivière et pour les institutions privilégiées, les couvents, les hôtels aristocratiques, toutes les administrations, dans des puits qui ont été forés dans la nappe phréatique, mais aussi dans les quelques conduites que l'on arrache à l'administration royale qui contrôle le ravitaillement de l'eau dans la capitale ou à Londres. De la même manière, c'est le roi qui a la haute main sur les eaux de la rivière. Tout est à peu près dans les mêmes conditions qui, oblige à l'augmentation accrue de cette alimentation en eau. Troisième élément lié à ces deux premiers, c'est que quand vous avez mangé et bu, vous avez un problème d'excrétion. Dans un compte-rendu aujourd'hui fameux de mon premier volume, M. Jean-Pierre Digard, grand anthropologue et meilleur spécialiste que moi des équidés à l'échelle du monde, m'a dit « Une pudeur curieuse retient cet historien pour ne pas parler des ordures ». Ben oui, j'en parle en trois lignes, très vite, mais alors... ça veut dire à peu près 100 000 tonnes de crottins par jour. Donc, c'est sans aucune autre organisation que l'organisation coutumière, que l'organisation par quartier, l'évacuation qui est faite de... Alors là, je peux évidemment recommencer un livre sur cet aspect de la question. Je passe à la deuxième, au deuxième versant qui retient l'attention, c'est où met-on tous ces chevaux. Alors, dans une petite ville, on a peu de problèmes. On voit ça, par exemple, dans une ville qui a été très bien étudiée, Dunkerque, où on voit très bien comment fonctionnent les étables de Dunkerque à la périphérie, aux entreprises portuaires, etc. Dans une grande ville, et plus la hiérarchie urbaine se densifie, plus le phénomène devient compliqué, parce qu'on se trouve dans un tissu urbain qui n'est pas malléable, dans lequel on ne peut pas travailler à abattre des maisons facilement, donc sur un parcellaire qui doit être respecté, et on va avoir de tout autre problème. Alors à Paris, on a une bonne idée de ce qui s'est passé, il y a très peu de place, les maisons sont à deux ou trois travées d'ouverture, mais dans ce très peu de place et dans ces maisons tout à fait indisponibles à imaginer pour mettre des écuries, on trouve, comme l'a montré une étude sur le centre de Paris, on trouve à peu près 10 à 15% de maisons qui ont une écurie. Dans le centre même de la ville, là où c'est le plus dense, alors c'est tout à fait intéressant. il n'y a pas de remise pour les voitures. On devait les laisser dans la rue et c'est un grand problème pour la police. Mais il y a des endroits où on met les chevaux à l'abri, et en particulier dans les maisons où on a la chance d'avoir un puits, le système clos, là, fonctionne à peu près bien. Cela met en cause quand même, c'est un raisonnement qu'on peut peut-être étendre en partie, parce que l'auteur de ce travail a consulté 4000 procès-verbaux de la juridiction des experts en bâtiment de la ville de Paris, ce qui n'est pas rien, ça fait à peu près 4000 maisons sur lesquelles on dit 10 à 15% d'écuries. Là où le parcellaire s'élargit et là où la ville a pris de la consistance et de l'espace, à ce moment-là, il y a toujours réflexion pour construire des écuries aristocratiques. Alors il y a toute une série, évidemment, de propositions architecturales qui font l'objet des grands traités des architectes, depuis Blondel jusqu'à Gabriel, et on peut continuer jusqu'aux architectes du XIXe siècle, sur ce que doit être une écurie. Et c'est à l'intérieur donc de la ville que se définissent des problèmes de dimension, d'aération, d'écoulement des eaux, d'évacuation des déchets qui sont à l'origine, en quelque sorte, de ce que sera le système des écuries modernes. Type même de ces hôtels ou de ces espaces administratifs, l'hôtel des postes ou l'hôtel de la ferme générale, l'hôtel des lieutenants généraux de police ont des écuries qui ont été bâties en fonction de ces besoins. Alors il y a un accroissement extraordinaire des espaces professionnels. Il y a à citer parmi ces espaces professionnels ce que les guides mettent en valeur, les auberges. Le prix de la nuit dans une auberge parisienne est dicté par la présence ou non des chevaux qui vous accompagnent. Et cela monte assez vite, évidemment, si vous en avez plusieurs. Toujours dans les espaces, et le phénomène est vérifié à peu près partout, avec une organisation entre le centre et la périphérie, puisqu'une partie des chevaux ne peuvent pas être entassés dans les écuries rares du centre de Paris, ils sont remisés dans des écuries périphériques, ce qui suppose un système de, en quelque sorte, professionnel qui fonctionne tout le temps, sur lesquels on n'a rigoureusement aucune information. C'est pas possible que ça marche autrement. Faut bien que les gens laissent leurs chevaux comme on laisse sa voiture dans un parking. Et alors, comment se débrouille-t-il? Comment ça se passe? On ne le sait pas. Je n'ai jamais trouvé de tête. Toujours dans ces espaces professionnels, je mettrai les casernes. Et je passe maintenant assez vite parce que le temps est en train de me grignoter. Et là aussi, ce que je voudrais en quelque sorte souligner, c'est l'importance de la réflexion militaire autour des casernes de cavalerie. Là aussi, c'est un des lieux où il y a tout un travail des militaires, des hippiates, puis au XIXe siècle, des vétérinaires militaires, pour en quelque sorte obtenir des bâtiments qui soient aux normes des exigences pour le maintien, l'entretien de la population chevaline. Alors quels sont sur cette première trame de la présence et de l'installation les principaux effets induits? Le premier, c'est la concentration de la circulation et le problème posé par cette concentration pour la gestion des trafics. La gestion des trafics est quelque chose qui se pose très tôt dans la ville moderne. Elle se pose à trois niveaux d'usage. Le premier, c'est celui de la minorité des chevaux de selle et de quelques voitures de haut luxe qui est réservée d'abord à l'usage privé, mais qui peut être aussi entretenue par la location pendant très longtemps. Le deuxième niveau, celui qui apparaît dès la seconde moitié du XVIIe siècle, se développe peu, mais avec un certain accroissement au XVIIIe, et conquiert tout l'espace au XIXe, c'est les transports en commun. C'est le cheval et les compagnies d'omnibus et de transports hippomobiles qui conquièrent l'espace des grandes cités européennes au XIXe siècle. Et enfin, le troisième niveau, celui dont on ne parle jamais, mais que l'on voit apparaître sur les photos de la fin du XIXe siècle, dans d'innombrables gravures et dans de nombreux textes, c'est le cheval outil, le cheval de travail qui est partout présent dans la ville, avec les gros énormes fardiers qui participent à toutes les constructions urbaines, particulièrement du bâtiment. Le métro a été construit par les chevaux et à la pioche. La vitesse du cheval et son travail est totalement réglementée pour ça. Alors, il y a donc sur ces trois niveaux de flux une interrogation et une réorganisation qui redistribue en quelque sorte les usages et la régulation de ces usages d'une manière tout à fait appropriée. Le premier âge de la circulation, avec Guilherme et ses étudiants, on l'appelle désormais l'âge des embarras. C'est l'âge de ces écrits qui remontent à Horace, qui sont relayés par Boileau dans les écrits de Paris et qui décrivent la ville dans ses aspects de coalescence, parce que la circulation y est impossible. Ce mouvement de coalescence, il est journalier. C'est-à-dire, il commence très tôt le matin, parce que c'est l'heure où arrive de l'approche banlieue toute la production animale et toute la production végétale pour les halles de Paris. Et tout se remplit comme ça, et tout se bloque jusqu'à ce que, en fin de journée, les paysans, les jardiniers regagnent leur campagne, les livreurs ont fini de livrer, et une autre circulation à ce moment-là s'impose, qui est la circulation des riches, la circulation des gens qui vont au théâtre, la circulation qui vont en soirée, et qui est d'un tout autre ordre. Alors c'est ce premier chaos qui est en quelque sorte organisé par la police de Paris. Le deuxième secteur sur lequel l'intérêt des économistes et l'intérêt des policiers se porte constamment depuis l'époque moderne, c'est le marché même, en quelque sorte, des chevaux. Paris a un turnover de chevaux tout à fait extraordinaire. Un cheval de la Compagnie Générale des Omnibus vers 1860, il ne dure pas plus de 3 ans. Au bout de 3 ans, on le renvoie à la campagne où il est mort. Donc, comme la Compagnie Générale des Omnibus, c'est à peu près 20 à 30 000 chevaux, vous voyez ce que ça veut dire, un turnover de ce. C'est tout à fait important. Ce qui fait qu'il y a une organisation du marché des chevaux qui est en elle-même un grand sujet de travail auquel je n'ai fait qu'accorder un peu d'attention, mais qui mériterait d'être totalement repris, et il y a certainement des archives sur lesquelles on pourrait travailler. Dans la période d'avant la Révolution, le marché, il est entraîné par une quarantaine de grands spécialistes qui jouissent en quelque sorte du privilège du haut de gamme et qui sont contrôlés étroitement par la cour, par le grand écuyer, qui vient vérifier sur le marché aux chevaux de Paris, qui est à côté du boulevard de l'Hôpital, qui existe encore aujourd'hui. Il y a encore d'ailleurs les bâtiments de l'octroi de ce marché, c'est tout ce qu'il en reste. Il était contrôlé par l'inspecteur d'Emery. C'est lui qui tenait les livres, qui en ont disparu, et c'est là où le monopole du contrôle de la cour s'exerçait tous les jours, pour tous les types de chevaux, chevaux de carrosse, chevaux de voiture ou chevaux de selle. Et c'est contrôlé par un certain nombre de grands marchands dont on connaît très bien, à travers la consommation des écuries aristocratiques, dont certaines ont été étudiées dans une thèse faite par Natacha Cochry sur la consommation aristocratique. On sait très bien comment marche ce système. Au XIXe siècle, le monopole, en quelque sorte, de contrôle a disparu, mais le marché s'est maintenu avec l'arrivée journalière de ces chevaux qui occupent la place du marché, le déplacement du marché, je vous épargne les différents éléments, et l'intensification, en quelque sorte, de la hiérarchie des produits. Donc voilà, en gros, pour les premières mises en place concernant les effets induits. Paris, avec ses écuries aristocratiques et ses écuries économiques, comme Londres, comme Berlin, comme Vienne, ce sont des capitales du cheval, et elles ont tout cet entraînement avec des dizaines de personnes. Alors Paris constitue un petit problème particulier parce que vous le savez, la capitale est Duel. Et pendant toute une partie, jusqu'en 1789, elle est à Versailles. Seulement, ce sont les mêmes familles qui s'occupent des chevaux à Versailles et qui chevaux à Paris. Ce sont les mêmes maréchaux ferrants, ce sont les mêmes vétérinaires. Et le terme vétérinaire, vous le savez, apparaît à la fin du XVIIIe siècle. J'en arrive à mes dernières remarques qui sont destinées à préciser le rapport entre les chevaux et l'urbanisation et qui exigent un retour, vous vous en doutez, au problème de la circulation. Cette circulation entraîne deux effets extrêmement importants. Le premier, c'est sa densification très, très, très tôt et qui est due et qui provoque ces embarras que j'évoquais avec Boileau, qui est due à l'incapacité d'un vieux réseau vieillard d'absorber une circulation accrue. Le thème des embarras ne disparaît pas pour cela. On va modifier le réseau viaire, on y revient dans un instant, le thème sera continuellement un thème littéraire. Dans Zola, par exemple, ou dans Balzac, au XIXe siècle, vous allez le retrouver constamment évoqué avec évidemment des réminiscences littéraires, montre bien que les périls urbains, avec les accidents, avec les nuisances, avec les bruits, avec le problème des boues, avec toutes les menaces qui pèsent par la présence des chevaux sur la population populaire, si je peux dire, ce que Mercier a traduit à de maintes reprises, en particulier dans l'article porte-cochère. L'article porte-cochère est consacré à l'épouvantable massacre de piétons qui se fait tous les jours dans le Paris pré-révolutionnaire. Donc ça, c'est une composante tout à fait essentielle qui lie les difficultés de circulation, malgré leur adaptation, on y revient, à, en quelque sorte, les structurations sociales de la circulation urbaine. La deuxième dimension, c'est la volonté de contrôle. Comment s'opère la volonté de contrôle qui, pour rendre la ville plus facile à vivre et aussi plus lisible, plus compréhensible, plus facile à aménager, la volonté de contrôle s'organise très très tôt, en particulier pour faire peser sur les propriétaires de voitures et sur les propriétaires de chevaux des servitudes administratives et des contrôles administratifs. Il y a là toute une action qui est tout à fait intéressante parce qu'elle est une phase de la manière dont on a pensé la géographie des villes, l'urbanisme des villes dans un contexte non mécanisé. Les bêtes sont ici des acteurs particuliers. Parce que, par exemple, lorsque les agents de la préfecture de police ou les ingénieurs de l'école des travaux publics ou les ingénieurs des ponts et chaussées s'attaquent au problème du freinage des véhicules, ils se heurtent à un problème tout à fait particulier, c'est qu'on ne freine pas du tout un cheval comme on freine une automobile. Parce que ça a l'air idiot, vous n'agissez pas exactement sur le moteur comme vous pouvez le moteur de l'automobile. Donc il y a toute une dynamique intellectuelle qui naît là-dessus et qui n'a jamais fait l'objet d'autre chose que des remarques. Alors, la première phase dans laquelle s'exerce l'action des autorités urbaines, c'est la phase d'équipement liée à l'établissement d'une circulation au temps des grands cortèges et des princes cavaliers. Les places accueillent les carrousels. Un certain nombre d'avenues sont percées, nettoyées et entretenues pour les premiers besoins de la promenade aristocratique. C'est comme ça qu'à Paris naît le cours La Reine. C'est comme ça qu'à Londres naissent le Strand et les Vauxhall. Ce sont des lieux où la spécificité de la promenade des quais contribue à un désenclavement avec un premier élargissement de l'espace au-delà des portes quand la ville commence à grandir. Quand s'accroît la phase de la ville des transports et des échanges, l'accélération des circulations, de nouveaux investissements vont être nécessaires et cela va se traduire dans deux dimensions. La première dimension, c'est la reconstruction même de la ville et son aménagement technique. Il y a donc une ville dont la technique est dictée par la circulation hippomobile. C'est ce qu'on a appelé avec Guilherme la ville des chevaux. Et la deuxième dimension, c'est l'organisation du nouvel espace des transports qui habitue les habitants des villes à maîtriser en quelque sorte les déplacements. Alors du premier côté, le point de départ, il est à lire dans le traité de la police de Nicolas de Lama. C'est le premier grand recueil de textes auquel vous pouvez avoir recours pour comprendre comment la police de l'Ancien Régime envisageait d'organiser, de réglementer les circulations hippomobiles en garantissant la sûreté de ces circulations, leur commodité et leur liberté. Ce sont les termes qui reviennent constamment dans le vocabulaire policier. C'est un manifeste de la réflexion contre la congestion urbaine de la ville ancienne confrontée à l'essor de la circulation. Avec l'accroissement de ces essors, on va voir trois soucis principaux s'affirmer. Le premier, c'est le contrôle des véhicules. Et il y a toute une réglementation extrêmement précise pour empêcher les véhicules de devenir des instruments mortifères quant à la population piétonne majoritaire, vous vous en doutez, de la capitale. Le deuxième ensemble de mesures, c'est l'action réglementaire contre les nuisances de tous ordres. Je n'y reviens pas. Il s'agit de lever tout ce qui s'oppose à la circulation dans le domaine des obstacles réguliers, les véhicules laissés en attente devant les maisons, mais aussi dans tous les domaines annexes, les bruits, les odeurs ou les boues. Quand Voltaire meurt, on met dans la rue où il est en train de mourir des tonnes et des tonnes de paille pour empêcher les bruits des véhicules. Ils seraient désagréables au moment de l'agonie de ce grand homme. Donc, vous voyez, ça va dans une perspective d'aménagement très étendue. Et puis enfin, troisième dimension de cette réglementation qui s'étend, c'est le contrôle des métiers spécifiques et tout le souci qui porte sur l'amélioration de la population animale et des comportements humains. Donc alors on peut rechercher toutes les étapes de ce débat à travers l'histoire de ce rapport au mouvement animal depuis le XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il va se produire des phénomènes nouveaux. Le premier de ces phénomènes, ça va être l'aménagement même de la circulation dans les rues étroites par la création d'innovations qui maintenant ne nous frappent pas, le sens interdit, l'interdiction de stationnement, plus intéressant encore, la circulation à droite. Tout cela est mis en place dans le but de permettre la meilleure gestion des flux à l'intérieur de la ville. Et dans la législation post-révolutionnaire de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, on a véritablement toute une précision, une exactitude dans ce domaine. On crée aussi des choses qui visent les matières pondéreuses et les matières dangereuses. Toute la réglementation qui encore aujourd'hui frappe les gros camions, frappe les livraisons et ça, elle existe déjà d'une certaine manière dans l'obligation faite à l'interdiction de circuler à certaines heures, les livraisons réglementées, les stationnements obligatoires pour certaines marchandises à un certain temps, etc. Donc cela introduit des modifications dans l'économie même de la circulation qui sont tout à fait importantes. Le parking des voitures hippomobiles est un sujet particulièrement développé et étudié par les autorités policières, car évidemment, on ne peut pas laisser les chevaux en liberté quand on décharge les voitures, ce qui oblige du personnel. Il y a toute une réglementation qui se met en place. Les nouvelles constructions, à partir des années 1830, la grande ordonnance de 1831 sur la police parisienne, met en place l'obligation de prévoir des parkings, des aires de stationnement, voire des garages souterrains dans des constructions nouvelles. Donc la modernité de la ville telle que nous la vivons encore commence véritablement avec cette nécessité de la circulation. Dernier Dernière invention, non, c'est pas la dernière invention, c'est toute la spéculation sur l'aménagement même de la technique de la rue. Toutes les techniques de la rue qui sont faites pour que, avec un modèle de gestion hydraulique qui est celui des ingénieurs inventifs de l'école des ponts et chaussées, pour faire cette accélération, cette facilitation. Alors vous avez la spéculation sur les trottoirs. Le trottoir n'existe pas dans les villes d'avant le 19e siècle. Le trottoir apparaît à Londres dans certains quartiers de la fin du 17e siècle. Puis il se généralise plus vite à Londres qu'à Paris. Mais à Paris, il n'y a pas de trottoir avant 1780. Et encore seulement dans certains quartiers. Le trottoir est le premier remède à la lutte contre les accidents des chevaux contre les piétons, des cavaliers contre les piétons. Donc on sépare les circulations. Deuxième type de réflexion, le revêtement des chaussées. L'accroissement du poids des véhicules, l'accroissement du nombre de chevaux fait qu'on va réfléchir à la technique du revêtement, à l'image, vous le savez, de ce qui s'est fait pour les villes. Troisième domaine, et c'est celui qui est lié à la difficulté de nettoyer les rues et d'assurer la propreté de tout ça, c'est un des chapitres des mémoires de Haussmann qui détaille toutes les mesures qu'il faudrait faire pour que la ville soit enfin propre. Là encore, le modèle est londonien. Il faut organiser un nouveau type d'enlèvement des excréments, des précautions multiples pour les gadous et les boues ordinaires et tout ce qui concerne en quelque sorte la facilité de ces flux. Le dernier domaine que j'ai évoqué et qui va composer la facilité générale créée à la circulation hippomobile, c'est le surveillement le surveillement de la circulation même. Une police qui est multipliée par 3 entre 1829 et 1892. En 1829, il y a un sergent de ville pour 10 000 habitants. En 1892, il y en a 33. Ça fait plus que par 3, ça par 30. Vous vous rendez compte ce que ça représente comme modèle de sécurité. Alors la ville hippomobile est en partie la ville d'Haussmann, mais la ville d'Haussmann qui n'est pas uniquement dictée par des percées stratégiques et des percées de contrôle social. C'est aussi une ville de la circulation qui va se concrétiser dans l'accroissement du nombre des chevaux mis à la disposition des compagnies de transport omnibus, et en particulier de la grande compagnie générale des omnibus qui fusionne toutes les compagnies sous le Second Empire. Vers 1900, cette compagnie a 18 000 chevaux à sa disposition et c'est une énorme industrie qui fonctionne avec un ravitaillement de chevaux à l'échelle de la France entière. Me semble que l'on peut prendre conscience qu'une ville nouvelle, moderne, est née au développement, lié au développement de la circulation hippomobile, que c'est à l'intérieur de cette ville nouvelle que de nouveaux spectacles se sont développés, en particulier du côté de l'art équestre, du cirque et de la promenade et des courses. Et enfin, je crois que les habitudes de tous étaient certainement plus partagées qu'on ne le dit et que les règles de la distinction n'étaient pas réservées à l'aristocratie mais pouvaient descendre très bas quand on s'attaque à ce type de questions et à ce type de questions concernant l'animal plus particulièrement. Excusez-moi, mais il y a tellement de choses à dire. Voilà, je m'arrête.